France Info.
Bonjour Benabar.
Bonjour.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué.
Benabar ou Barnabé, en Verlan, vous êtes effectivement cet artiste attiré par la piste aux étoiles, celle du cirque à la base, tantôt clown triste, tantôt clown drôle. Ce sont vos mots hein, qui vous ont permis de conter vos histoires et donc votre monde. Et les invitations à enchaîner les tours de piste n'ont pas manqué d'attirer le public, qui aime jouer d'ailleurs à s'approprier vos paroles pour en faire leur au cours de vos 2000 concerts déjà donnés, de vos 3 millions de disques vendus. Et pourtant, il ne faut pas se leurrer, la musique est d'abord un bon moyen de vous évader et de prendre du recul. C'est d'ailleurs ce que vous chantez dans votre dernier album Le Soleil des Absents qui sort aujourd'hui. C'est d'abord un hommage à Denis, ami de la première heure, accordéoniste, compositeur, frangin de scène, comme vous le dites, donc compagnon de route et de vie depuis 30 ans. Les absents n'ont donc pas toujours tort.
Non, c'est vrai, puis il faut respecter aussi leur choix. Il se trouve que Denis a mis fin à ses jours, donc c'est aussi ça rajoute un trouble supplémentaire à la disparition d'un ami, mais qu'il faut aussi respecter. Parce que c'est une position, je l'explique à personne, hein, tout le monde, mais qui est particulièrement confortable.
On se titre ravi de ce nouvel album. Chacun est un ou des personnages, des scènes de vie, des scènes du quotidien. Pas de tristesse ni d'alarmisme. C'est assez incroyable d'ailleurs. Chacun est à minima souriant, souvent drôle. Il a de l'énergie, de la joie de vivre. C'est l'effet papillon qui a muté et qui a déployé ses ailes.
Oui, un petit peu. C'était presque une forme d'obligation vu le contexte, la disparition de Denis. Donc il nous a tous bouleversés, moi le premier. Et en fait, on était tellement conscients de savoir qu'on allait avoir un climat plutôt triste, plutôt de chagrin. Donc tout de suite, on s'est tous mis d'accord pour pas aller dans ce sens-là. Donc, assez paradoxalement, cet album est devenu, me dit-on, parce que c'est toujours à partir de maintenant où j'ai un peu les retours, quoi. Qui est plutôt, comme vous dites, joyeux, entraînant. Et je suis content parce que c'était vraiment l'écueil d'aller dans quelque chose de triste. Et on avait ça en tête quasiment à chaque croche, quoi. Donc, je suis content si on a pu sortir un petit peu de cette ornière, quoi. D'où le titre, d'ailleurs.
C'est étonnant parce que vous avez eu plusieurs moments dans votre vie, Bruno. Il y a eu des moments forts, des moments drôles, des moments tristes, des moments où vous avez beaucoup douté. D'ailleurs, le bénéfice du doute, je trouve, est assez révélateur là-dessus. Mais en même temps, vous êtes toujours resté concentré sur vos chansons, sur l'importance de l'écriture, au point d'ailleurs de vous remettre en jeu, en question, de vous faire violence avec Indocile Heureux, par exemple. On a eu l'impression de ne pas avoir le même chanteur que d'habitude. D'un seul coup, d'un seul, il s'est passé quelque chose avec cet album. C'était en 2021, donc c'était il y a 5 ans, et on le retrouve aujourd'hui. Il y a un chemin qui est parcouru, et cette envie d'aller chercher les rayons du soleil, d'aller chercher la lumière.
Oui, alors c'est vrai. D'ailleurs, ça me trouble que vous l'exprimiez comme ça, mais il y a du vrai, en effet, ça a été un peu charnière, Indocile Heureux, mais peut-être un moment de carrière aussi. Je pense qu'il faut pas trop analyser sa propre carrière, parce qu'on est sûr de se tromper a priori, mais quand même être assez vigilant sur, notamment sur le fait de ronronner, de ressortir des recettes qu'on finit par avoir, même si on le dit pas, mais avec ce qu'on appelle l'expérience, entre l'expérience et la recette, c'est difficile de faire la différence, quoi. Et donc c'est bien de se bousculer un petit peu, en tout cas d'être toujours un peu alerté par cette possibilité, de ressortir un peu la même soupe.
Depuis cet album Indocile Heureux, il s'est effectivement passé quelque chose là-dessus, mais on a eu plein de choses qui sont dévoilées. Déjà, vous êtes revenu à l'essentiel, la scène, le jeu d'acteur, parce qu'à la base, c'était le cinéma qui vous attirait, et vous êtes d'abord un acteur. C'est assez fou, d'ailleurs, quand on écoute Un âme de poète, on se rend compte à quel point vous êtes très, très fort là-dedans. Et en même temps, il y a justement, quand on dit âme de poète, il y a cet amour et ce rapprochement avec l'écriture. Là, on comprend, Bruno, à quel point les mots sont tous très précis, et de plus en plus précis.
C'est l'essentiel, presque, de mon boulot, de préciser. D'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai beaucoup de copains cuisiniers, et ils ont le même discours, préciser le goût du truc, essayer de virer tous les artifices qu'on a tendance, notamment quand on est plus jeune, évidemment, à accorder beaucoup d'importance, et de préciser, et les mots, alors c'est une partie de boulot, mais c'est surtout un plaisir immense, quoi, d'aller essayer de trouver vraiment le mot qui veut exprimer ça, puis notre langue le permet, qui est dit à la nuance près exactement ce qu'on veut dire. Ça, c'est très excitant à faire, c'est long, mais c'est passionnant. Ouais.
Vous avez pu suivre par moments les conseils qu'on pouvait vous donner, mais vous êtes vraiment maître à bord de ce nouvel album.
Oui, complètement. Et les conseils, j'ai eu la chance aussi je me rends compte curieusement maintenant, à mes débuts. Enfin, je sais pourquoi, parce que mon fils commence à faire de la musique, etc. Donc, ça va être un fils d'eux, alors que moi, j'ai pas arrêté de les critiquer depuis que j'ai commencé. Donc, il va falloir que je cuisine ça un petit peu intellectuellement quand même, pour sortir d'une malhonnêteté intellectuelle. Mais bon, ça en verra. Et je me suis aperçu à quel point j'avais de la chance quand j'ai commencé dans les bistrots, avec Denis en l'occurrence, d'intéresser personne, donc de pas avoir eu de conseils. Et je crois que les conseils, conseils, même les plus bienveillants du monde, hein, peuvent compliquer aussi, parce que ça peut compliquer le moment où on va se trouver tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités, ce qui font un artiste, quoi. Ça a été un coup de bol, en fait. J'en ai souffert à l'époque d'être à l'abandon, mais en fait, aujourd'hui, je crois que ça m'a permis de me construire un peu solidement.
Vous dites que c'est, il y a un moment donné, vous abordez justement ce qu'on vous a transmis dans une des chansons. Vous parlez de la soif de reconnaissance.
Oui.
Et vous dites que c'est héréditaire.
Oui.
Ça veut dire que ça, votre père ou votre mère vous l'ont transmis?
Oui, je crois, ouais. Et puis d'ailleurs, je crois qu'on est nombreux à avoir ça, la soif de reconnaissance, même si on s'en cache. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus spectaculaire quand on fait des métiers de lumière. Enfin, dans la lumière, pas forcément de lumière d'ailleurs. Mais, donc nous, on est obligé un peu de l'assumer quand même, parce que sinon, ce serait idiot. Mais je crois que c'est un peu partout, la soif de reconnaissance. Mais ça commence par celle de ses parents, de ses frères, de ses copains. Enfin, elle est permanente et ça aussi, c'est quand même un danger, plus qu'un enjeu. Ça peut écraser une vie à courir toujours après une reconnaissance qui vient pas forcément. Et puis quand elle vient, j'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance, c'est très satisfaisant au niveau de l'ego, mais c'est pas ça qui change une vie, quoi.
J'ai l'impression même qu'elle n'a pas réussi à combler cette espèce, pas de vide, mais de manque que vous aurez toute votre vie, en fait.
Peut-être, oui, peut-être. Et j'ai pas accordé beaucoup d'importance. Ça, c'est un danger qu'on a, évidemment, quand on écrit, quand on fait quelque chose d'artistique avec toutes les guillemets possibles. Justement, de vouloir séduire, c'est-à-dire que je pense que le truc, non pas vouloir déplaire, parce que moi, je suis pas du tout là-dedans, la provoque m'a toujours ennuyé, je vois pas l'intérêt que ça a. Mais par contre, à vouloir séduire, on passe à côté de plein de choses. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Je l'ai vu, moi, les quelques fois où j'ai essayé. J'ai vu plein de copains qui font ça beaucoup et je trouve qu'ils se perdent. Je le trouve vraiment. Enfin, c'est un avis évidemment, mais j'en suis convaincu.
Vous êtes moins râleur qu'avant, pour ceux qui disaient que vous étiez râleur, mais pour autant, vous n'en oubliez pas du tout de refuser la langue de bois. C'est important de le préciser, ça. C'est-à-dire que être râleur, c'est pas justement dire des choses pour dire des choses, mais justement raconter un peu qui on peut être et éviter la langue de bois. Et ça, c'est une langue que vous ne pratiquerez jamais.
Merci de l'analyser comme ça, parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire encore une fois sans être toujours dans l'accusation, parce que c'est non plus pas intéressant, mais même vis-à-vis du public, en fait, je trouve ça très insultant d'utiliser la langue de bois. Puis nous, on a quand même une tradition de chanteurs un peu gueulards, un peu qui font la tronche et tout ça. Dans le chanteur français, c'est pas mal toute une partie de notre équipe de chanteurs, notamment les grands aînés. Et puis aussi, j'insiste sur le fait, la langue de bois, ne pas aller dans la langue de bois, c'est pas forcément critiquer ou gueuler tout le temps. C'est-à-dire que dire j'aime pas, ça veut pas dire je déteste. C'est pas du tout synonyme. On peut être critique, avoir un avis, des réserves sur un truc, sans forcément détester. Et je crois qu'il faut pas s'interdire ça, parce que justement, la langue de bois, en enlevant ses nuances dans la critique, enlève aussi le propre de la critique, c'est de pas être d'accord sur les trucs. J'ai toujours un problème quand les gens disent, par exemple, moi je fais pas de politique et tout ça. Le principe, c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. C'est-à-dire qu'il y a qu'un seul vote, donc on a tous un seul vote, donc chacun vote pour qui il veut. Mais par contre, avoir un avis, le défendre, discuter avec les autres, et je trouve ça sain. Et puis je trouve que ça aussi qui fait les citoyens, quoi, responsables, c'est essayer de savoir qui nous gouverne, comment ils nous gouvernent. Et ça, c'est valable pour la politique, mais c'est valable pour tout, je crois, d'avoir un avis sur ce que j'entends à la radio, sur les films.
C'est ça aussi être artiste, faire le contrepoint de temps en temps, proposer un contrepoint.
Alors j'ai toujours un problème avec ça, l'artiste. Je commence à l'assumer, moi, curieusement, parce que j'ai compris, parce que en fait, je l'assume déjà, parce qu'on peut être un mauvais artiste. Souvent, on prend ça comme un jugement de valeur, mais en fait, on peut être un artiste de merde. C'est pas forcément bon artiste, mais c'est artiste, c'est une façon de faire, de voir les choses, et surtout d'avoir des obsessions. Je pense que le propre des artistes est d'être obligé de faire certaines choses et être obligé de pas faire certaines choses et pas arriver à composer parfois, et souvent à tort. Mais c'est le peintre qui a fait que des toiles bleues et son galeriste lui dit putain, fait des toiles rouges, et le mec, il n'arrivera jamais à faire des toiles rouges. C'est aussi ça, l'artiste. C'est-à-dire que, à raison ou à tort, il suit un chemin qu'il dépasse un peu, qui est très intérieur et très animal.
L'artiste, c'est le métier que vous vouliez faire. Même si vous avez mis du temps à accepter, effectivement, d'endosser cet intitulé-là. Vous parlez des droits d'auteur à l'intérieur d'une des chansons, parce que c'est aussi le quotidien d'un artiste. C'est qu'il fluctue, c'est que c'est toujours très fragile. Ce métier de saltimbanque, non seulement vous avez toujours revendiqué de l'avoir épousé, mais j'ai l'impression que de plus en plus, vous êtes heureux d'avoir épousé ce métier-là.
Oui, et puis les droits d'auteur, là je parle des droits d'auteur avec deux hauteur avec le H dans la gravité. Mais c'est vrai que tout ce truc-là, mais le fait d'ancrer les chansons dans une réalité, c'est pour ça que cette réalité sociale, encore une fois, sans aller dans la chanson engagée, on peut aussi avoir des avis sans dire aux autres ce qu'ils doivent penser. C'est important de garder ça. Et ça rejoint la conversation sur la langue de bois. C'est une différence entre dire ce qu'on pense et aux autres ce qu'ils doivent penser et donner des leçons, ce que j'ai jamais fait, ce que je ferai pas a priori. Et d'assumer cette vie-là de tourner, même si je suis très conscient d'être très privilégié dans ce domaine-là par rapport à plein d'autres. Mais c'est quelque chose que j'assume. Puis peut-être aussi parce que maintenant, il y a aussi longtemps que je suis chanteur que je suis pas chanteur, quoi, je crois.
La journée s'annonçait radieuse, cubi et barbecue, comme quoi les journées prometteuses ne le restent pas jusqu'au bout. Les adultes aux grillades, avec notre musique de fond, une phrase à la cantonade nous fit l'effet d'un coup de canon.
C'est une playlist de darons.
où il y a un effet papillon qui a laissé place à un effet boomerang avec la playlist des darons, c'est-à-dire que votre fils, enfin votre progéniture, a tendance à vous dire que vous avez une playlist de darons, notamment depuis que vous avez effectivement atteint les 5 ans de printemps. Et vous vous amusez à leur parler de cette playlist de darons qui sera un jour la leur.
Exactement, ouais.
C'est retour à l'envoyeur en fait.
C'est retour à l'envoyeur. Alors, ce qui me satisfait, c'est que mes gosses ont été très très bien élevés dans ce domaine-là uniquement, hein, parce que sinon ils sont livrés eux-mêmes. Mais ils adorent aussi Michel Delpech, ils connaissent aussi tous les anciens. Mais c'est sûr, c'est fatal. Et puis cette situation de barbecue avec les copains, et puis les mômes qui essayent de choper à chaque fois le Bluetooth pour changer la musique, c'est assez quotidien quand même.
Il y a beaucoup de fraternité dans cet album, hein, de liens, de vivre ensemble. C'est bien entendu, c'est le fait justement de faire des focus sur les mains des gens qui nous entourent.
Oui, c'est vraiment une volonté qui a toujours été un peu le cas, parce que le cliché du partage, moi je le prends pour moi dans la musique, de toute façon, c'est ce qui apprend aussi la tournée. Hein. Il n'y a que dans ces moments-là, en fait, où je suis tout seul, sinon une tournée, tout le monde est ensemble, et puis même si on est très très prétentieux, sur scène, on se rend bien compte qu'on ne fait pas le poids tout seul, c'est-à-dire que c'est une équipe, technicien compris, même si je n'ai pas beaucoup de respect pour les techniciens, je leur dis quand même qu'ils ne commencent pas à choper le... Non, voilà, il a le melon, et ça commence.
Il vous regarde.
Il fait signer artiste.
Il vous regarde. Le fait que Denis ait disparu, ça donne une saveur particulière à la tournée qui arrive, Bruno, c'est-à-dire ce besoin justement de profiter davantage des autres, de cette équipe, de cette bande de potes, d'être sur la scène et d'être sur la route ensemble.
Oui, vraiment, ça nous a tous, en plus musiciens, techniciens, on tourne ensemble depuis très longtemps, 20 plus pour beaucoup, et c'est sûr que ça donne une patine complètement différente, parce que c'était pas du tout, Denis était avec moi depuis le début, puis il était pas du tout question de jouer un jour sans Denis, ça n'avait jamais été envisagé en fait. Donc ça change tout. C'est ce qu'il y a aussi. Là, j'ai pas tourné pendant pas mal de temps quand même. L'album, on l'a fait deux fois quand même. On est retourné en studio. Enfin, ça a été non pas dans la douleur, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça a été laborieux sentimentalement en fait. Et la tournée va partir comme ça. Et c'est vrai qu'on y réfléchit tous de savoir comment ça va se passer. Puis moi, c'est la première fois que j'ai pas tourné aussi longtemps. Puis aussi, au niveau de l'âge, comment ça va se passer. C'est-à-dire que vu la vie de tournée d'adolescent qu'on a en tournée, est-ce qu'on est encore capable de la mener?
On dit souvent que ce qui ne tue pas rend plus fort. J'ai l'impression que cette disparition vous a permis de vous rendre compte à quel point vous étiez plus fort que vous ne l'imaginiez.
Oh, ça, je n'irai pas jusque-là.
De re-rentrer en scène.
Oui, il y a ce truc-là. Et puis il y a ce truc aussi de, encore une fois, la mythologie sur la scène. Elle est réelle. C'est-à-dire que c'est quand même, pour les gens comme moi, c'est la base de tout. C'est la cause et la conséquence de tout. C'est-à-dire qu'on parle dans le vide s'il y a personne qui nous écoute, même si elles sont trois, même s'il y a une seule personne qui écoute la chanson. S'il n'y a pas cette personne-là, c'est complètement vain, en fait.
Vous avez un plaisir aussi incroyable de mélanger les époques, de proposer autre chose. Dans Ma banlieue vue du drone, vous vous amusez justement à parler des rapports des banlieues. C'est vrai qu'on se rend compte qu'avec un focus arrière et en prenant de la hauteur, on voit davantage ce qu'on a du mal à finalement interpréter ou peut-être formuler.
Mais d'ailleurs, c'est typique cette chanson-là, parce que ça m'obsède depuis des années. Moi, je suis banlieusard, puis je suis vraiment banlieusard viscéralement. Je viens de l'Essonne. Moi, je suis convaincu que la banlieue, c'est ce qui est du bon côté du périph, je le pense vraiment, quoi. Et puis avec ce côté contre les Parisiens, enfin, il y a tout ce truc-là, hein, toute cette imagerie-là, un peu à l'ancienne. Et je tourne autour de cette chanson, mais depuis longtemps, en sortant un peu des banalités, quoi. Et puis avoir un peu l'écrasement de Nougaro avec Toulouse, donc être un peu dans une suite ratée de ces grandes chansons. Et le drone, en effet, permet de s'éloigner et surtout de voir la banlieue à quel point la banlieue est vivante. Et c'est vrai que les banlieues, on change de ville sans vraiment s'en rendre compte. Et toute cette banlieue-là, la banlieue Est et Sud, que je connais très bien, a quelque chose de très animal. Quoi.
Au petit matin, de retour de je sais pas où, valise à la main, dans le salon, debout, elle ôte ses talons, sans me quitter des yeux, disant à sa façon, je repars si tu le veux.
C'est vraiment votre regard qu'on découvre, votre regard d'aujourd'hui, votre vie d'aujourd'hui, votre façon de voir le monde différemment depuis quelques temps. Il y a Trois jours, trois nuits, qui est une chanson qui est totalement différente dans cet album, qui vient nous cueillir. Alors, pourquoi elle nous cueille? Parce que vous nous racontez la vie de couple, les difficultés d'une vie de couple quand l'un ou l'autre finit par s'absenter parce qu'il a une histoire ailleurs, et la difficulté pour la personne qui reste de devoir justement protéger les enfants de ces histoires d'adultes, de faire en sorte que la personne qui s'en va, quand elle revient, de la maintenir le plus possible à la maison et de faire en sorte qu'elle ne reparte plus.
Oui.
C'est super beau, c'est une énorme déclaration d'amour. Et c'est avait fait avec un sourire qui est assez bluffant.
Bah oui, parce qu'il y a toujours le côté, y compris dans les chansons tristes, ce qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs de l'extérieur, c'est que c'est aussi, ça peut être très ludique d'écrire une chanson triste, parce qu'il y a ce côté manipulation de, là c'est du pur, c'est vraiment une scène de théâtre ou de, d'ailleurs ça a été fait plein de fois, ou de cinéma, cette attente, ce flottement, est-ce qu'elle va rentrer, qu'est-ce qui se passe quand elle rentre, elle le regarde, parce que bon, elle attend que le mec la foute dehors ou pas, ou l'accepte, enfin tout ce moment-là d'attente, mais ça remonte à Pagnol, hein. Femme du boulanger, tous ces trucs-là, c'est quand même les mêmes situations, et rentrer dans cette entreprise de manipulation pour essayer de déclencher des émotions avec les mômes qui savent pas trop. J'espère qu'elle est émouvante au final, mais en tout cas quand on l'a fait, c'est presque, peut-être pas marrant, mais il y a quelque chose, ouais, de vraiment ludique, c'est vraiment le terme.
Vous vous nourrissez de tout, comme des inscriptions qu'il peut y avoir par moment sur les murs, des graphes, ce qui a été le cas d'ailleurs avec cette inscription qui s'intitulait « Fuck la peine » sur un mur Porte d'Orléans un soir,
qui encore,
dans un taxi,
vu, je l'ai vu en venant.
Et ce graphe est devenu l'une de vos chansons. La peine, finalement, c'est une question qu'on se pose. Ne s'entretient-elle pas et ne se combat-elle pas aussi à l'inverse en lui faisant un doigt d'honneur assez franc?
Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est savoir la laisser à sa place. C'est-à-dire qu'elle doit être là, mais ça doit pas patiner toute notre vie. Comme la joie, si on est joie tout le temps, bah, on est imbécile heureux, quoi. Si on est joyeux tout le temps, donc, et si on est triste tout le temps, on est imbécile malheureux, quoi. Donc, il y a aussi cette, être lucide par rapport à la peine, pas se laisser déborder, et puis se poser les vraies questions par rapport à ça aussi. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je crois que c'est aussi un raisonnement d'adulte. Comment on va gérer cette peine? À quel niveau on va la mettre dans notre vie, quoi? Et ça, je pense que ça arrive, bah, souvent, évidemment, quand on a des pertes de gens proches. Mais ce savoir, qu'est-ce qu'on va faire de cet animal, mais sans forcément le rejeter, parce que il est là, et voilà, quoi.
Donc vous êtes devenu un papy buvard dont l'encre ne bave quasiment plus.
Ah,
vous absorbez.
Oui, il y a un peu de ça. Ouais, même si j'essaie de toujours, moi je suis toujours aussi tourmenté, pas de le cacher, mais c'est vrai que c'est un peu plus en sourdine. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, parce que c'est peut-être un truc de vieux en fait, plutôt qu'un truc de. Je suis pas sûr si je suis sage ou juste un peu vieux et fatigué, quoi.
Non, je crois pas. Je crois que vous êtes sage un peu plus, mais pas complètement.
Oui, c'est ça.
Indocile toujours et heureux. Le titre La Gravité raconte le besoin de légèreté. Comment la gagner, cette légèreté? Vous chantez fuir sous les souterrains via le métro aérien, subir le quotidien, le voir d'un peu plus loin, nos attractions dont la gravité tire vers le bas. Si on changeait les octaves vers les aigus, sortir de la cave, soyons plus légers que l'air et cassons les plafonds de verre. Vous en avez encore des plafonds de verre?
Ah oui, de moins en moins, mais j'en ai encore. Mais c'est vraiment un détail, hein, mais le fait d'accepter d'être artiste, pour moi, ça a été un plafond de verre qui a été vraiment déterminant, quoi, parce que ça m'obsédait, et en fait, ça libère pas tant que ça, mais au moins, ça permet de voir tel qu'on est. Encore une fois, sachant qu'artiste, c'est pas un jugement de valeur, hein, je le répète, parce que pour moi, c'était ça, c'était très prétentieux de dire je suis un artiste. Et encore une fois, on n'est pas forcément un bon artiste.
Dans le titre Quoi qu'on en dise, vous dites, il y a toujours un fantôme dans le placard. On est des menteurs sincères et efficaces, on se donne le bon rôle. Mentez-vous encore aujourd'hui, quel est le plus beau rôle de votre vie?
Le plus beau rôle, c'est pouvoir mener cette vie globalement, de monter sur scène. Je répète d'interview en interview, mais je sais que j'ai cette chance-là de pas être blasé, de pas être fatigué. T'es toujours un peu surpris d'être ici, franchement. C'est-à-dire que même avec l'habitude, c'est pas jamais un détail pour moi. Et ça, je crois que c'est une grande chance d'avoir pu maintenir ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou le public qui m'a permis de le faire, mais en tout cas, je me rends compte à quel point ce serait triste d'avoir une Ferrari dans le garage et puis de même plus en utiliser, puis de trouver ça normal d'avoir une Ferrari, quoi. Je suis pas sûr de ma métaphore, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Faut que je retravaille mes métaphores pour les prochaines interviews.
Et pour celles et ceux qui se demandent s'il reste encore du bonheur, la réponse, elle est à la fin de cet album avec Obispo qui vous accompagne.
Ouais.
C'est lui qui vous a fait venir d'ailleurs. Enfin, qui a eu l'idée.
Ça fait partie des cadeaux de la musique, de la simplicité de la musique. Alors que c'était pas vraiment parti pour ça. Et puis Pascal, on n'était pas parti pour faire cette chanson-là. Et puis ça s'est fait comme ça. Ça devait pas être du tout être un single. Et puis on l'a dit. D'ailleurs, j'étais très militant en disant mais elle est bien cette chanson. Donc on a redécalé mon album. Enfin, là je parle de choses très terre à terre, mais c'est aussi une réalité par rapport à tout ce qu'on disait de revenir à la simplicité de la musique. Avant, une musique c'est un gars ou deux gars qui chantent ensemble quand c'est un duo. Et puis c'est tout, quoi. Et c'est bien d'avoir ça en tête, quoi. C'est tout. Et puis on la livre au public, il la veut ou pas, mais de revenir à cette simplicité-là, c'est important. Oui.
Merci beaucoup Benabar d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Bruno. Votre nouvel album Le Soleil des Absents vient de sortir, vous serez en concert à l'Olympia le 29 avril prochain, puis à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand le 12 novembre, le 13 vous serez à Lyon, le 14 à Dole, à Biarritz le 19 novembre au Palais des Congrès et de Bordeaux le 20, au Palais des Congrès de Poitiers le 21 novembre et à Niort le 13 décembre. Il y a plein d'autres dates. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je partageais mon cafard, ma molle mélancolie, avec la nuque sans égard d'un chauffeur de taxi, sous le pont embouteillé de la Porte d'Orléans, bien obligé, j'ai pris
pris le temps de lire les graffitis griffonnés sur le mur, les tags feignants à la bombe de peinture, des lettres hip-hop, des surnoms idiots ressortaient facilement une formule du lot. Fuck la peine, fuck la peine, dit le pont. Fuck la peine, fuck la peine, crie le béton. La radio diffusait un morceau nostalgique, bien sûr, il pleuvait sur le périphérique. Comme pour s'assurer de mon désarroi, la chanson était triste et méchamment pas de moi. C'est inattendu qu'un mur nous réconforte, on a rarement vu un bouchon qui transporte. Merci au poète pour ces trois mots, t'as rendu mon pote mon matin un peu plus beau. Fuck la peine, fuck la peine, dit le pont. Fuck la peine, fuck la peine, crie le béton. Fuck la peine, et voilà, je souris. Fuck la peine, et vive la vie. Je m'inquiétais cependant pour les touristes qui viennent. Pour qu'ils en profitent, il faut qu'ils comprennent. Je propose de traduire, au moins par politesse. À côté inscrire, va te faire foutre sadness. Fuck la peine, fuck la peine, dit le pont. La peine, fuck la peine, crie le béton. Fuck la peine, et voilà que je souris. Fuck la peine.